Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Émission animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Dieu appelle les hommes. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, nous avons quelques exemples. Dieu appelle et les hommes lui obéissent. Dieu appelle Noé pour construire une arche pour sauver les animaux et quelques humains. Dieu appelle Abraham qui quitte Ur en Chaldée pour aller en Canaan. Dieu appelle Moïse pour libérer son peuple qui est esclave en Égypte et le ramener en Canaan. Dieu appelle des prophètes. On peut signaler Jonas qui, lui, refuse dans un premier temps. Mais bon, il finit par obéir. Chaque prophète a compris, un jour ou l'autre, que Dieu l'appelle et l'envoie. C'est là une expérience profonde et difficile à exprimer avec des mots. Pourtant, plusieurs prophètes essaient de rendre compte de cette expérience. Ils le font avec des images et avec des mots qui leur sont familiers. Ils montrent ainsi que cet appel est lié à leur vie et se réalise dans cette vie concrète. Dans le texte que nous allons entendre, Isaïe ou Ésaïe essaie de décrire son appel. Il le fait avec des images de son univers, le temple et le palais royal. Cette page a probablement été écrite après des années d'action prophétique.
Nous lisons donc le premier texte du jour d'Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 11. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Tout-Puissant. Sa gloire remplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler. À la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. »
On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires, en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu.
Vous écoutez Radio Grand Ciel et durant cette émission, nous écouterons des chants de Noël Colombier dans ses CD sur la Bible. on s'imagine que certaines personnes ont la vocation, c'est-à-dire qu'ils sont appelés par Dieu et d'autres pas, ou que certains sont choisis et d'autres laissés, que certains reçoivent cette grâce et d'autres jamais. Quelle erreur, et qui conduit à tant d'orgueil. Quel serait donc ce Dieu qui appelle certains à une grande proximité ou à un travail élu et laisserait de côté les autres pour cause d'indignité ou d'insuffisance? Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont la vocation et de l'autre ceux qui n'ont rien. Il n'y a que des appelés.
Comme pour les prophètes, la vocation des chrétiens est d'ouvrir les yeux, de regarder attentivement tout ce qui se passe à la surface de la terre, de scruter les comportements des nations, d'analyser les mouvements de la société et de l'Église, d'alerter sans crainte quand la loi d'amour de Dieu et du prochain est bafouée, de parler et d'agir pour que les humains demeurent frères et enfants de Dieu. Comme les prophètes, ils ont mission d'ouvrir les yeux de leurs contemporains afin que jamais ils ne deviennent aveugles devant tout ce qui détruit la liberté et la dignité des hommes et que jamais personne ne puisse dire « nous ne savions pas ».
Chacun a cette vocation unique, enfant de Dieu. Chaque être humain est appelé par Dieu, de la même égalité et sans distinction de préférence, à vivre de sa tendresse, comme un enfant bien-aimé se nourrissant de la présence de son père ou de sa mère. Chaque être humain est appelé par Dieu à travailler avec lui à la création d'une terre de joie. Chacun avec ses capacités et à la place où il se trouve, reçoit vocation de Dieu. Les humains sont différents et aussi leur façon de répondre à l'appel de Dieu. Mais quelle que soit la fonction qu'ils occupent dans le monde et dans l'Église, quel que soit leur don, la vocation est la même pour tous. Dans l'existence de tous les jours, humblement et en offrant sa vie, se mettre à l'œuvre pour que les hommes et les femmes de la terre puissent partager la fête voulue par Dieu pour tous les enfants de la terre. À cette vocation, chacun est libre de répondre, comme Ésaïe, « Me voici Seigneur, envoie-moi ».
Vive les prophètes. Grâce à eux, nos yeux s'ouvrent sur l'humilité de Dieu. Sinon, nous aurions continué à penser que Dieu a partie liée avec les ors somptueux, les palais aux 1000 serviteurs, les quartiers du grand et du beau monde. Or Dieu est humble. Il fréquente tous les endroits où vivent les humains. Pour sa présence, Dieu ne sélectionne pas les belles églises et les grands rassemblements ou les lieux de bienséance et de puissance. Dieu est humble, sans monture de guerre, sans parure de soie, sans protocole, sans tenue de soirée. Il vient petit parmi les petits, homme parmi les hommes, démuni comme n'importe quel humain fragile face à l'avenir. Dieu n'est pas attiré par les coûteux sacrifices ni par ce qui brille. Il est attiré uniquement par les humains. Et c'est dans leur banale existence quotidienne qu'il a choisi de les rejoindre. Les prophètes l'ont annoncé, mais on en est sûr depuis que Dieu s'est fait humble en son Fils Jésus-Christ.
Sur la terre comme au ciel, il voyait Dieu. Dans la prière comme dans la misère, il trouvait Dieu. Il dérangeait, il redressait, il dénonçait, il annonçait les prophètes. Je t'ai choisi en plein travail, derrière ton troupeau. Laisse tes bulles, ne fais pas d'adieu, tiens, prends ce manteau. Mon esprit t'a enveloppé avant que tu ne sois né. Je suis la braise sur tes lèvres pour les purifier.
Tu vois, je ne sais même pas parler.
C'est moi qui parlerai par toi.
Les gens sont durs et obstinés,
mais toi, tu les dérangeras. Cessez de prier vos idoles en or, en argent, de vous fier à vos magiciens, à votre armement. N'ayez confiance qu'en Dieu seul, il faut l'adorer. Moi je ne vis que pour lui seul, j'en suis passionné.
Pourquoi critiques-tu le roi?
Le Seigneur n'est plus avec lui.
Mais tu sais bien qu'il te tuera.
Le Seigneur est plus grand que lui. Dieu dit, je vous tiens dans mes mains comme le potier, un objet que j'ai façonné, que je peux briser. Vous pouvez tout déraciner, ruiner, renverser, ou bien vous pouvez avec moi bâtir et planter.
Revenez donc vers le Seigneur.
Qui es-tu pour nous conseiller?
Vous allez faire votre malheur.
Nous voulons faire ce qui nous plaît. Pourquoi tant de cérémonies et de sang versé? Je n'aime pas vos sacrifices, mais les cœurs brisés. Ceux qui pratiquent la justice, qui ouvrent leurs mains, qui défendent les opprimés, veuves et orphelins.
Tu veux détruire la société?
Non, je veux beaucoup mieux.
Pourquoi veux-tu donc tout changer?
Ce n'est pas moi, c'est Dieu.
Nous allons voir maintenant comment dans le Nouveau Testament Dieu appelle, comment Jésus-Christ a appelé ses disciples. Et la lecture du jour est dans l'évangile de Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Il y a la semaine, et il y a le dimanche. 6 jours durant, on travaille, on exerce son métier, on trime pour gagner sa vie, ou bien on peine un peu plus pour se faire davantage d'argent. Le dimanche, on s'arrête de travailler. En principe, car certains sont obligés de remplir leur service même ce jour-là. Le dimanche est le jour de repos. On fait son jardin, on va voir des amis, parfois on va au culte ou à la messe. L'existence est ainsi rythmée par des périodes d'activité et des moments de détente. Heureusement qu'on n'est pas des esclaves.
Si vous avez bien écouté la lecture du début du chapitre 5 de Luc, vous avez remarqué que ce texte se distribue exactement de la même manière. Pour commencer, on assiste à quelque chose qui ressemble à une assemblée dominicale. Des gens sont réunis et Jésus leur fait un sermon. En deuxième partie, on retourne à la vie de semaine avec son travail et ses efforts. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce qui se passe pendant le travail est au moins aussi important que ce qui se passe pendant le culte ou la messe, contrairement à ce qu'on pourrait attendre.
L'événement que Luc raconte ressemble effectivement à l'un de nos cultes du dimanche. Des gens se sont rassemblés autour de Jésus. Personne ne les a obligés, ils sont venus volontairement. Jésus se met à leur parler, comme il le fait chaque fois qu'il en a l'occasion, chaque fois qu'il rencontre un groupe de personnes disposées à l'écouter. Cela se passe au bord du lac de Génézareth, apparemment tout à côté de l'eau. On dirait que Jésus se met à parler, le dos tourné vers le lac. Il n'est pas facile de voir tout le monde dans cette position-là, on est trop près. Alors Jésus monte dans une barque et il s'éloigne un peu du rivage pour voir tous les auditeurs. L'orateur se met toujours en évidence. C'est une bonne méthode pour se faire entendre.
Les gens qui sont là, cette petite foule d'anonymes, l'écoutent certainement avec plaisir. Sinon, ils ne seraient pas venus, peut-être de loin, jusqu'à cet endroit. Nul doute que les paroles de Jésus, sa prédication, ne les intéresse. Un message aussi neuf et aussi percutant que le sien ne peut manquer de trouver des oreilles attentives, même si c'est pour le contester à l'occasion. C'est important d'écouter Jésus, important de participer à nos assemblées. Il ne faudrait pas, pour rien au monde, prétendre que le culte est secondaire ou facultatif et qu'on peut s'en passer. Où donc entendrions-nous la parole de Dieu sinon là? De même que ces gens de Galilée ne peuvent pas l'entendre ailleurs qu'ici ou dans la synagogue. Mais enfin, pour important que cela soit, il ne s'y passe rien d'extraordinaire. Certes, la rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, est en soi miraculeuse. Mais il ne se produit pas beaucoup de miracles au cours du culte ou de la messe, pas plus qu'il ne s'en produit ce jour-là au bord du lac de Génézareth.
Et puis, le sermon une fois terminé, ou bien les auditeurs fatigués d'écouter, Jésus sait bien prendre la température de son auditoire, on revient à la vie courante, on rentre pour ainsi dire en semaine. Pour ces pêcheurs, cela signifie qu'ils avancent vers le large et qu'ils se remettent à faire leur métier. Comme nous, dès le lundi, nous reprenons nos outils de travail. Et c'est là, dans cette existence quotidienne, que deux choses se passent. Deux choses tellement exceptionnelles que Luc, sur les 11 versets de ce récit, leur en consacre 8. Et cette longueur en vaut certes la peine.
On était deux amis, Jean et puis moi, André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais.
Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardée.
Ainsi, cette scène de l'évangile de Luc se déroule sur une plage entre la terre et l'eau, et l'évangile va faire son apparition entre le doute et la grâce. Sur la terre se tient la foule qui écoute la parole de Dieu. Deux barques sont là, et Jésus monte dans celle de Simon, comme par hasard. Cela se fait discrètement et sans discussion. Pourquoi s'inquiéter ? Il s'agit seulement de parler à la foule, de se maintenir à distance pour que la parole soit mieux entendue, parce qu'elle est ainsi portée par la réverbération à la surface de l'eau. Et c'est ainsi que Jésus parle, tout près de Simon, mais en lui tournant le dos. Jésus s'adresse à d'autres dans la barque de Simon. Il s'adresse à la foule anonyme. Mais ce qu'il dit est aussi entendu de Simon. D'autant mieux entendu peut-être que cela s'adresse à d'autres.
Puis il arrive ceci, que tout ce que Simon savait de Jésus, s'adressant aux autres, se retourne et lui fait face. « Avance en pleine eau, dit Jésus, et jetez vos filets pour pêcher. » Cette parole va entraîner Simon dès maintenant en un lieu étrange, plus loin de la foule qu'il ne pense. Un lieu où il va se trouver seul et perdre son assurance, comme on perd pied quand le sol se dérobe. Ce qui est dit à Simon, dans la circonstance, est inattendu et peu raisonnable. Il en a immédiatement conscience, et c'est là que le doute vient s'immiscer dans cette relation qui débute. Mais il consent, à cause de la parole prononcée, à faire ce qu'il n'aurait certes pas fait de lui-même. Il est bien payé pour savoir que ce n'est ni le lieu ni le moment de jeter les filets. Mais il laisse la parole de Jésus avoir aussi sa sagesse à elle, et il accomplit le geste demandé. Il suit déjà Jésus.
L'événement qui va faire de Simon un disciple, le convertir à une nouvelle vie, est bien ce retournement qui s'opère en lui dans sa propre barque. Une parole entendue, mais dite à d'autres, et qui ne me disait rien, tourne vers moi sa face vivante et s'adresse à moi. Nous avons peut-être eu l'occasion de le constater déjà. L'annonce d'une parole adressée à une personne est souvent reçue par une autre qui n'était pas ou ne se croyait pas visée. Dans bien des cas, le seul moyen de se faire entendre de quelqu'un consiste à le laisser de côté pendant que l'on parle, afin de ne pas provoquer chez lui le geste instinctif d'une parade. D'autant plus accentué qu'il devine mieux de quoi il s'agit. C'est que personne n'a envie de s'entendre ordonner d'avancer en pleine eau, de quitter le rivage du doute pour atteindre l'étendue de la grâce. La parole de Dieu s'adressait à la foule, et c'est Simon qui va la recevoir et en être tout retourné.
Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je veux vous dire aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous.
La parole de Dieu s'adressait à la foule. Et c'est Simon qui va la recevoir et en être tout retourné. Il se produit alors un événement parfaitement incompréhensible et inattendu, un événement qui appartient aux profondeurs secrètes de l'eau, un événement dont la logique nous échappe, mais dont les conséquences sont nombreuses, vivantes et visibles. Une profusion de poissons, l'immensité d'un don aussi inattendu, généreux et gratuit que la grâce. Les amis accourent, et ce n'est rien moins qu'un miracle. Pendant que l'on s'efforce avec des rires et des cris de tirer parti de l'aubaine, Simon, lui, ressent à nouveau une angoisse et un doute. Il comprend que l'événement va bien au-delà d'une pêche miraculeuse et qu'il est personnellement concerné. Son angoisse est de constater que toute retraite lui est coupée et qu'il se trouve, à son corps défendant, engagé dans une voie où il sait qu'il ne peut aller, une voie et une vie qui ne peuvent pas être les siennes. D'un coup, tout en lui devient négation, refus, et puisqu'il ne peut fuir cette barque, refus de Jésus.
Une autre parole, la même depuis le commencement, vient alors débloquer la situation. « Ne crains rien, n'aie pas peur. » Elle ne vient pas comme une formule apaisante, dite à tout hasard à l'angoissé. Elle vient comme la vérité du moment. « Ne crains rien, car cette épreuve présente donne accès à une nouvelle signification d'existence. » Une signification qui assume l'ancienne, la fait devenir un passé auquel on ne reviendra pas, mais l'exauce aussi en ce qu'elle portait d'obscure espérance. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu étais pêcheur et tu vas le rester. Ton passé, ton métier demeure, tu restes le même, mais c'est désormais sous un nouveau jour que tu vas vivre. Ce récit nous transporte encore aujourd'hui à ce bord de mer où tout est possible à partir de l'Évangile. À ce bord de mer où tout commence et recommence, entre la terre et l'eau, entre le doute et la grâce, entre ce que nous sommes, ce qui est notre passé, et ce que nous sommes appelés à être, ce qui va devenir notre avenir. Ce récit nous transporte à la limite, à la frontière entre l'attendu et l'inattendu, entre le banal et l'extraordinaire. L'attendu, c'était que la foule se convertisse et que les filets soient remontés vides de poissons. L'inattendu, c'est Simon le pêcheur qui se convertit. C'est la barque qui déborde de poissons. C'est ainsi que Jésus nous entraîne, comme dans les paraboles, dans cet espace, cette limite entre le paysage familier et le dépaysement, en nous offrant un espace de liberté possible pour une décision, la décision de la foi.
Pour Simon et pour bien d'autres, la foi, c'est cette prise et cette surprise du cœur et de l'être tout entier. C'est l'irruption dans la vie de l'inattendu, du déroutant qui captive. Oui, la foi est insolite, inattendue. On oublie ce que l'on a été jusque-là pour être emporté, capté, captivé, comme les poissons dans les filets, ou comme les hommes pêchés, cueillis, captés, captivés par l'Évangile, ravis par l'Évangile dans tous les sens du mot. Je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est une phrase délirante, mais les apôtres l'ont saisie comme vitale. Je ferai de vous des hommes qui raviront d'autres hommes. Vous les ferez sortir de l'invisible, tels des poissons sous la surface de l'eau. Ces mots n'ont pas encore un sens très clair, mais ils les touchent. Avant les autres, ils sont eux-mêmes pris au filet, sortis de leur élément par la voix de Jésus qui les appelle. Nous sommes toujours ramenés sur cette plage, sur ce bord du lac où tout est possible. Déployés sur nous comme le filet du pêcheur, dans l'aube d'un jour nouveau, Dieu nous enveloppe de sa parole. Et c'est souvent là où il n'y a rien à trouver et au moment le plus improbable qu'il se saisit de nous, qu'il nous ravit. Non pas directement, de face, comme dans une communication ordinaire, mais indirectement, par un détour et par la même intimement.
Nous sommes toujours ramenés sur cette plage, sur ce bord de lac, entre le doute et la grâce, entre notre refus, notre angoisse, et le don miraculeux et généreux d'une autre aventure. À l'écoute de la parole, aujourd'hui, Dieu nous fait encore signe. Dieu nous appelle. Et si sa parole nous ravit, nous saurons à notre tour ravir d'autres hommes. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matin à 10h30 au temple vers rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Aimez-vous comme je vous œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris ?